Bonjour à tous.
Bonjour.
En effet, c'est vrai que venir ici, c'est un petit peu un retour aux sources, puisque j'y ai fait mes premiers pas de foi il y a une trentaine d'années. Donc un petit bout de chemin, mais je reconnais quand même quelques visages. Donc merci beaucoup de m'accueillir, et puis je suis aussi heureuse de venir partager sur un sujet qui me tient à cœur, qui est le soin à la création. On m'a demandé de me présenter en quelques mots, je vais faire vraiment très bref. J'ai quitté la fraternelle, j'avais une vingtaine d'années, je me suis mariée. J'ai actuellement 4 enfants, j'ai toujours le même mari. ça paraît banal, mais ça n'est pas tant que ça. Et puis, on vient de rentrer de Chine l'été passé, donc il y a à peu près 8 mois. Et puis, c'est depuis ce moment-là que je me suis réengagée dans l'équipe d'Arocha, au nom de qui je viens parler ce matin. Quand j'ai réfléchi tout au début et que j'ai prié pour ce temps, il y a un texte qui m'est venu qui était Ésaïe 45. Puis après, j'ai réfléchi. Puis il y a tellement de textes en fait qu'on peut utiliser dans la parole pour parler de la création que je suis un peu partie sur autre chose. Puis après, je me suis dit, bon, je vais quand même demander à David s'il y a une direction particulière. Et puis il m'a dit, si tu pouvais parler des prophètes, ça serait bien. Puis du coup, je suis allée revoir mes notes. Puis je dis, tiens, on va quand même prendre Ésaïe 45. Donc aujourd'hui, on va prendre ce texte d'Ésaïe 45. C'est un très beau texte. C'est un texte qui parle en fait du choix de Cyrus comme celui qui va permettre le retour d'Israël en terre promise. Mais c'est aussi un texte qui parle de qui est Dieu et puis de son désir pour l'humanité. Alors aujourd'hui, on ne va pas tellement se pencher sur l'aspect historique et prophétique en lien avec Cyrus. On pourrait, mais ça ne va pas être mon propos aujourd'hui. Je vais plutôt me pencher sur d'autres aspects. Et puis, pour commencer, quelqu'un qui a été désigné, je ne sais pas où elle est, voilà, va nous lire des extraits de ce texte. Et je dois pointer ça. Non, c'est pas... Voilà.
C'est moi qui suis l'Éternel, et il n'y en a pas d'autre. À part moi, il n'y a pas de Dieu. C'est afin que l'on sache, à l'est comme à l'ouest, qu'en dehors de moi, il n'y a que néant. C'est moi qui suis l'Éternel et il n'y en a pas d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la paix et je crée le malheur. C'est moi l'Éternel qui suis l'auteur de tout cela. Que le ciel déverse et que les nuages fassent couler la justice. Que la terre s'ouvre afin que le salut y porte du fruit et qu'avec lui la justice y fleurisse. C'est moi l'Éternel qui ai créé cela. Malheur à l'homme qui intente un procès à celui qui l'a façonné, lui qui n'est qu'un vase parmi d'autres vases de terre. L'argile, dit-elle au potier, que fais-tu ? Ou ton travail est mal fait ? Voici ce que dit l'Éternel, le Saint d'Israël, celui qui le façonne. Va-t-on m'interroger sur l'avenir ou me donner des ordres sur mes enfants et sur mon activité ? C'est moi qui ai fait la terre et créé l'homme qui la peuple. C'est moi. Ce sont mes mains qui ont déployé le ciel. Et c'est moi qui donne des ordres à tous les corps célestes. Voici que dit l'Éternel, le Créateur du ciel, le seul Dieu qui a façonné la terre, l'a faite et l'a fermée, qui l'a créée pour qu'elle ne soit pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle soit habitée. C'est moi qui suis l'Éternel, il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. En effet, c'est moi qui suis Dieu et il n'y en a pas d'autre.
Merci beaucoup. C'est un très beau texte. Et aujourd'hui, à propos de ce texte, je vais aborder 3 points. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent Tim Keller, mais Tim Keller, c'est un très bon prédicateur et il fait toujours ses messages en 3 points. Donc, je me suis dit, ça doit être le truc. Donc, 3 points aujourd'hui. Le Dieu créateur, une terre habitée et un Dieu d'espérance. Je m'excuse, je vais tout le temps... Voilà. Une des premières choses qui nous frappe quand on lit ce texte, c'est qu'il y a un seul Dieu, il n'y en a point d'autre. Ça revient, je crois, 7 fois dans ce passage d'Ésaïe 45, ça doit être important. Un seul Dieu, créateur de tout l'univers. un seul Dieu. C'est une sérieuse mise en garde contre toute forme d'idolâtrie. Alors, premièrement, peut-être l'idolâtrie de la création. Cette création, elle est belle, elle est magnifique, mais on n'est pas appelé à l'adorer. On n'est pas appelé à adorer l'homme non plus, et on n'est pas appelé à adorer n'importe quoi de ce qu'on a fait, qu'on a finalement tiré de la création. Et si on regarde autour de nous, tout ce qu'on possède, si on réfléchit un petit peu plus loin, puis qu'on essaye de remonter la ligne, ben tout, plus ou moins, est issu de la création. Sérieuse mise en garde, un seul Dieu, créateur de tout l'univers. Il y a plein de verbes dans ce texte qui reviennent. Œuvrer, créer, former, faire, façonner, affermir. Certains de ces verbes sont au passé et certains de ces verbes sont au présent, nous indiquant que Dieu a créé, mais qu'il continue à créer, il continue à affermir la terre. Et ça fait écho au psaume 104, pour ceux qui le connaissent, qui vraiment parle de ce Dieu qui est à l'œuvre continuellement sur cette terre, auprès des animaux, auprès de l'homme, auprès de la création tout entière. Ce n'est pas un Dieu qui a créé le monde et puis qui après est allé se planquer je ne sais où et puis qui s'est désintéressé de ce qui se passe. C'est un Dieu créateur, un Dieu qui continue à créer. Une autre chose qui ressort de ce texte, c'est que rien n'est hors du contrôle de Dieu. C'est mentionné qu'il crée même les ténèbres et le malheur. Alors on a un peu de peine avec cette notion. Je ne crois pas que ça veut dire qu'il suscite le malheur et les ténèbres, mais je crois que ça veut dire qu'il est en possession des limites qu'il impose aux ténèbres et au malheur. Mais il est en contrôle d'absolument tout. Rien ne lui échappe et on l'a chanté ce matin. C'est un Dieu tout-puissant. Un Dieu absolument tout-puissant. Et en regard de ce Dieu tout-puissant, de ce Dieu créateur, on a l'homme. Et il y a un rappel dans ce texte de qui est l'homme. L'homme est tiré de la terre, il est de l'argile, il est un vase façonné par le créateur. On n'est pas créateur, on n'est pas Dieu, on est une créature bien fragile si on y réfléchit. Et ça, c'est un appel à l'humilité. Et il y a un très beau texte, et on a d'ailleurs chanté quelque chose aussi d'un peu similaire à un moment donné ce matin, dans Psaume 8, qui dit « Je me dis, qu'est-ce qu'un être humain pour qu'à lui tu t'intéresses ? Pourtant, tu lui donnes de régner sur les œuvres de tes mains. » Qu'est-ce que nous sommes pour que Dieu s'intéresse à nous ? Et pourtant, non seulement il s'intéresse à nous, mais en plus, il nous a confié sa création. Il nous a donné de régner sur cette création merveilleuse. Ça fait aussi écho au texte de Genèse quand Dieu dit que l'Éternel prit l'homme et l'établit dans le jardin pour le cultiver et le garder. Cette planète, cette terre, ce n'est pas la nôtre. On ne l'a pas créée, de loin pas. Et puis elle ne nous appartient pas, elle appartient à Dieu, au Dieu créateur. Et ce Dieu créateur nous l'a confié. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, quand on me confie quelque chose qui ne m'appartient pas, eh ben, j'en prends 10 fois plus soin que quand c'est à moi. Voilà, par exemple, nous, on n'a pas de voiture, et ça nous est arrivé, du coup, quelques fois d'emprunter des voitures. Ben, moi, quand je suis au volant de la voiture qui n'est pas à moi, je ne vous dis pas, hein, je suis au taquet pour être sûre qu'il ne se passe rien. Et puis, je fais vraiment attention. D'ailleurs, je n'aime pas trop, c'est pour ça qu'en général, je passe le volant à mon mari dans ce genre de situation. Mais je fais super attention, bien plus attention que si c'était ma voiture. Pourquoi ? Parce que je me sens responsable, parce que j'ai envie d'honorer la personne qui m'a confié sa voiture, qui me l'a prêtée. Avec la Terre, il n'y a pas de raison que ce soit différent. Dieu nous a confié cette planète. On a à en prendre soin. 10 fois plus que si elle nous appartenait. Donc Dieu nous a confié cette planète. Dieu a créé cette planète. Pourquoi ? Il est dit dans ce texte d'Ésaïe que Dieu a créé la terre non pas pour qu'elle soit déserte, mais pour qu'elle soit habitée, peuplée. Ok, habitée par qui ? Par l'homme, il n'y a pas de doute, mais pas seulement. Et si on reprend le texte de Genèse, il y a vraiment une invitation. Dieu dit aux poissons de la mer et dit aux oiseaux du ciel, peuplez, remplissez la terre. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé de biodiversité cette semaine. Les espèces, elles sont plutôt en train de vider la terre. si on prend en termes d'espèces. Hein, il y a des chutes massives en termes de biodiversité. Les espèces ne sont plus en train de remplir la Terre. C'est en train de se vider. Ça devrait nous interroger quand même un petit peu par rapport à cet appel. Une terre habitée, pour qu'une terre puisse être habitée, elle doit être habitable. Elle doit être habitable. Et par rapport à ça, j'aimerais faire écho à deux remarques qu'on entend souvent dans les milieux chrétiens quand on parle d'environnement. La première chose que les gens disent souvent, c'est « Bon, ok, c'est bien joli, la biodiversité, les animaux, la création, c'est beau, blablabla, mais au final, l'important, c'est quand même pas plutôt de s'intéresser aux êtres humains. » Ok, bien. Je viens de mentionner la biodiversité et puis la disparition d'un certain nombre d'espèces. Une des causes majeures de ces disparitions, c'est la destruction de l'habitat. Pourquoi un certain nombre d'espèces disparaissent ? Parce que leur habitat est détruit. Ok. Alors l'homme, on va me dire, lui, il s'adapte. Il peut s'adapter à plein d'habitats différents. C'est vrai. Mais la planète dans son entier, ça reste l'habitat de l'homme. Jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas encore réussi à trouver le moyen d'aller habiter sur Mars ou sur Saturne ou je ne sais où, sur la Lune. Ok. Donc la Terre, c'est notre habitat. Est-ce qu'on pense vraiment que l'homme peut survivre en bonne santé sur un habitat détruit? Il me semble que même une mère de famille sait. Et pourtant, moi, je peux vous le dire, ma famille pourrait confirmer que je ne suis pas tellement une maniaque de l'ordre et de la propreté, surtout pour une Suisse. Mais je sais quand même que si je veux que mes enfants grandissent bien, je dois maintenir ma maison dans un certain minimum d'ordre, de propreté. Je ne vais pas m'amuser à laisser traîner la vaisselle pendant 2 semaines, parce que je sais que ça ne va pas aller. Je ne vais pas laisser ma maison se détériorer, devenir un taudis, et puis penser que dans ce taudis, mes enfants vont s'épanouir. Ça ne va pas me traverser l'esprit. Et je pense que ça traverserait l'esprit d'aucune mère de famille. Mais on a l'air des fois de penser qu'on peut laisser la Terre devenir un taudis et que l'être humain va s'y épanouir. Bon, je suis un petit peu sceptique. Tout ce dont on a besoin est tiré de la Terre. La nourriture, le vêtement, notre toit, et même bien plus que ça, un lieu de ressourcement, un lieu de détente. Si on laisse ça partir à la débandade, est-ce qu'on pense vraiment que c'est une bonne façon de s'occuper de l'être humain? Est-ce qu'on pense vraiment qu'on peut séparer ces deux choses? Et pour vous donner un exemple assez concret, comme je l'ai dit, on a passé un certain temps en Chine, donc on s'est penché sur pas mal de choses qui se passent en Chine. Et dans certaines régions de Chine, il y a des villages ou des villes qui sont devenues un petit peu les poubelles électroniques du monde. C'est-à-dire qu'on envoie là-bas tous les déchets électroniques, ça fait des montagnes de déchets, où un certain nombre de gens essayent d'aller récupérer toutes sortes de métaux divers et de les revendre et de gagner leur vie en brûlant un certain nombre de choses. Donc autant dire que s'échappe dans le sol, dans les eaux et dans l'air une quantité de métaux lourds. Mon mari qui est chimique vous expliquerait mieux ce que ça fait, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un désastre. Et il y a des régions autour de ces villages, à des kilomètres à la ronde, où la terre ne produit plus rien, où les eaux sont complètement saturées et où l'air est mauvais. Et des gens y vivent, mais ils y vivent mal. Ils y vivent au détriment de leur santé. Ils sont en train de mourir à petit feu dans ces lieux-là. Quand on laisse la terre devenir complètement inhabitable, l'être humain ne peut plus s'y épanouir. Séparer et dire on doit s'occuper des humains en ne portant aucun intérêt à la planète est un leurre complet. C'est faire l'autruche et mettre la tête dans le sable et croire quelque chose qui est complètement faux. Et je crois qu'au contraire, on est appelé à pratiquer la justice. On est appelé à être des restaurateurs de chemins qui rendent le pays habitable. Est-ce qu'on veut faire partie des gens qui continue à détruire ce qu'il y a autour de nous, ou est-ce qu'on veut faire partie de ceux qui rendent le pays habitable? Une autre question qui revient assez, enfin une autre remarque qui des fois revient quand on parle d'environnement, je vérifie le temps, c'est Jésus revient certainement bientôt, donc il n'y a pas besoin de s'énerver, de toute manière il va tout consumer par le feu, et puis pouf, on aura une nouvelle terre et un nouveau ciel, elle est belle, donc on ne va pas s'agiter et se prendre la tête là maintenant. Okay. Je vais vous avouer, une des premières à penser que certainement Jésus revient bientôt. Okay. En attendant, je le pense, j'en ai pas tellement la preuve, et puis ce bientôt, je suis quand même pas très sûre de ce qu'il veut dire. Est-ce qu'il veut dire 2 ans, 5 ans, 10 ans, 50, 100 ou plus? Honnêtement, j'ai peut-être une idée dans mon cœur de ce qui pourrait arriver, mais je suis quand même pas très sûre d'avoir complètement raison. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, au fond, même si Jésus revenait, disons, dans une année, en 2020, bien, ok, mais est-ce que ça ne devrait pas justement être une source de motivation plutôt que le contraire? Si je reprends l'exemple de ma voiture, quand on était en Chine, à un moment donné, on a emprunté la voiture d'amis, et puis on a eu un petit incident qui fait qu'on a radicalement défoncé... littéralement défoncé une porte. Enfin, je ne sais plus exactement quelle partie. Je me suis pas. Enfin bref, on avait bien défoncé la voiture, la carrosserie de la voiture. Est-ce que vous pensez qu'on est allé rendre la voiture dans cet état à son propriétaire? Non. Donc, on a averti le propriétaire, première chose. Mais ensuite, on a quand même fait en sorte de réparer, enfin pas nous, mais de faire réparer cette portière, parce qu'on avait à cœur de rendre cette voiture dans l'état où on l'avait reçu. Est-ce qu'on ne devrait pas faire la même chose avec la planète? Et si Jésus revient bientôt, est-ce qu'on a envie de lui rendre un truc qui est bousillé, qui ressemble en rien à ce qu'il nous a donné il y a je ne sais pas combien d'années? Je ne vais pas rentrer sur un débat créationniste, évolutionniste, peu importe. Oups, désolée, ce n'était pas prévu. Moi, j'ai envie de pouvoir lui dire, j'ai fait de mon mieux. Il me semble qu'il y a un certain nombre d'appels de Jésus à être des bons gérants de ce qui nous est confié. S'il y a bien une chose qui nous a été confiée, c'est bien cette planète. Ce n'est pas la seule chose, mais pour sûr, cette planète nous a été confiée. Moi, si Jésus revient, je n'ai pas envie d'aller me planquer. Je suis vraiment désolée, c'est la catastrophe. Moi, j'ai envie de pouvoir me tenir devant Jésus et de lui dire, j'ai fait le mieux que je pouvais. Ce n'est pas parfait, okay? Parce que je suis ce que je suis, puis je ne suis pas toute seule, mais j'ai fait ce que je pouvais. Ça devrait nous motiver si Jésus revient. On ne devrait surtout pas se dire, on s'en fiche et puis il fera le boulot quand il revient. Il ne me semble pas que c'est tout à fait ce que Jésus voulait dire quand il a parlé de cette fameuse parabole des mines ou des talents. Il nous invite à être de bons gérons, avec quelque chose à rendre. Et ça fait juste vous lire encore un autre texte d'Ésaïe qui invite un petit peu dans le même sens, qui dit « Pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir. » Car mon salut ne tardera pas. Ça doit nous motiver, vraiment nous motiver. Bien. Même si on prend ça à cœur, enfin surtout si on prend ça à cœur, une des choses qui peut se passer, c'est qu'on peut se sentir un petit peu dépassé. Parce qu'avec tout ce qu'on entend dans les médias, avec tout ce qui se passe, on peut se dire de toute manière, c'est beaucoup trop grand pour moi. Il y a beaucoup trop à faire et c'est un peu décourageant. Et je suis la première parfois à me sentir découragée. Mais ce qui est très beau dans ce texte d'Ésaïe, c'est qu'il y a une espérance. Dieu ne nous a pas juste dit « je vous confie la planète » et puis moi je me retire et je me tiens dans le ciel et puis je me dégage de tout. Et dans ce texte, on sent qu'il y a un Dieu qui est là, qui est créateur, qui connaît l'avenir, qui tient l'avenir entre ses mains, qui dit « mais est-ce que vous allez me dire ce qu'il faut faire à l'avenir ? Ou est-ce que vous allez critiquer ce que je suis en train de faire ?» Il est là, il tient toutes choses entre ses mains. Et c'est vrai qu'on est appelé à œuvrer, mais on n'est pas appelé à sauver le monde. Et ce texte le dit bien. Le salut, il vient de Jésus et de Jésus seulement. On ne va pas sauver, nous, humains, la planète. Et ce n'est pas notre rôle. Il n'y a qu'un sauveur sur cette planète et c'est Jésus. Et ça, ça nous permet d'œuvrer en étant relax. Ce n'est pas tout sur nos épaules. On a œuvré, on a travaillé, mais Jésus, il est là derrière. C'est lui qui tient tout ça entre ses mains. Et le résultat final, c'est son histoire. Mais moi, j'ai mon rôle à jouer. Moi, j'ai à être fidèle dans ce rôle-là. Je ne sais plus du tout où j'en suis au niveau de mes slides. J'aurais dû passer à la suivante. Un Dieu d'espérance dans lequel on peut se reposer. Et un texte aussi qui nous rappelle que justement cette source de salut, c'est lui, c'est Jésus. Ésaïe, encore un autre, c'est beau Ésaïe, hein ? Relisez Ésaïe, c'est magnifique, surtout la deuxième partie. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas ? Écoutez-moi et vous mangerez ce qui est bon. Venez à moi et vous vivrez. La vie, elle est en Christ. Pourquoi on s'agite tellement dans nos vies ? Pour avoir plus de biens, pour avoir plus d'argent, plus de vacances, plus de reconnaissance, un statut plus élevé, plus de pouvoir, plus de réalisation de soi. C'est tout ça qui nous pousse à consommer autant, c'est tout ça qui nous pousse au mode de vie qu'on a actuellement, ce mode de vie qui n'est pas très sain, ni pour la planète, ni pour nous au fond. On est appelé à se rappeler qu'en Jésus est la source. Et si en Jésus est la source, si c'est la vraie nourriture, elle est en Christ, on n'a pas besoin de tout. Il y a plein de choses qu'on n'a pas besoin. Il y a plein de choses dont on peut se débarrasser. Il y a plein de choses qu'on peut laisser de côté. Et ça, ce n'est même plus une question écologique à la base. C'est une question de marcher selon l'Évangile. Mais si on marche pleinement selon ça, selon cette vérité, au fond, on adopte un mode de vie qui, sans faire exprès, est écologique. C'est incroyable. On n'a pas besoin d'être écologique d'abord. On a juste besoin de suivre Jésus. Puis écologique, on va le devenir. Comme ça, naturellement. Parce que la simplicité, elle traverse les évangiles. Et Jésus nous a tellement mis en garde. Et ce texte nous met en garde. Un seul Dieu. Notre iPhone, ce n'est pas notre Dieu, on n'en a pas besoin. Même si la société nous fait croire le contraire. La 5G, on n'en a pas besoin. Vous êtes d'accord avec ça, hein ? Ça ne va pas nous donner la vie. La vie, elle est en Jésus. On a cette assurance, et cette assurance, non seulement on l'a, mais on peut la partager. Et le monde a besoin de réponses, aujourd'hui plus que jamais. Parce que les gens ont peur, les gens s'inquiètent. Et c'est normal qu'ils s'inquiètent. Puis on va leur dire quoi ? Bon, moi, je suis chrétien, mais au fond, je n'ai pas de réponse à toutes ces histoires. Non ! On a une réponse ! On a une réponse ! Il faut qu'on la partage. On a une réponse pour la vie et on a une réponse pour vivre différemment. Qu'est-ce qu'on attend pour sortir ? Elle crier, elle le dire, elle partager. Le salut, il est pour toute la création. Il est pour l'homme, mais il est pour la planète tout entière. Et ça, on est appelé à le partager autour de nous. Dieu a voulu, par Christ, tout réconcilier avec lui-même. Ce qui est sur la terre et ce qui est dans le ciel. Par son sang versé sur la croix. Alors mes amis, allons-y. Rappelons-nous qu'on a un Dieu tout-puissant, créateur, sauveur. Mais rappelons-nous aussi qu'il nous a confié cette planète et qu'on a à être fidèles dans les petites choses, fidèles dans la prière, fidèles dans nos modes de vie et fidèles dans le témoignage qu'on peut apporter autour de nous. Et si on veut un témoignage puissant aujourd'hui, on doit avoir des réponses écologiques. Sinon, les gens ne nous écouteront pas. Parce que ça veut dire qu'on est plus pertinent pour notre époque. Et moi, je crois qu'on est plus que jamais pertinent pour notre époque. Merci.